Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous reprenons nos deux séries, déjà abordées dans le passé. D'abord, en compagnie de notre invité Claude, Ian va parler de ce que l'on appelle les béatitudes, les paroles de Jésus qui se trouvent au début du sermon sur la montagne. Ensuite, Guy nous apportera une courte méditation ayant pour titre « Paroles de réconfort du prophète Ésaïe ».
Lors de notre première série sur les béatitudes, nous nous sommes penchés sur la première d'entre elles. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient.
Et dans la série que nous commençons aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième béatitude que voici. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera.
Merci Hélène. Ce texte se trouve dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, au verset 4. À présent, le moment est venu d'accueillir notre invité, Claude, bonjour.
Merci Yann et bonjour à tous.
Claude, pouvez-vous nous faire un bref résumé de ce que nous avons appris lors de notre première série sur les béatitudes?
Sans problème. Ces béatitudes décrivent les qualités spirituelles que tout disciple de Jésus est appelé à reproduire dans sa vie. Chaque béatitude est composée de deux parties. D'abord, une qualité qui doit caractériser le chrétien et ensuite, une promesse qui accompagne la qualité citée, affirmant que le chrétien qui reproduit ses qualités est heureux ou béni. Pourquoi ? Parce qu'il jouit de la faveur de Dieu et voit les promesses citées dans les béatitudes se réaliser dans sa vie. Les propos de Jésus peuvent surprendre parfois et ils nous orientent vers une compréhension nouvelle de ce que le bonheur et la vie chrétienne authentique sont réellement.
Il est vrai que les béatitudes sont surprenantes. Prenons le cas de celle citée aujourd'hui. Elle affirme que ceux qui pleurent sont heureux ou bénis. Comment être heureux si on pleure? Ces propos semblent se contredire. Que voulait dire Jésus?
Ah, il ne faut pas oublier la deuxième partie du verset, qui est la promesse qui accompagne ce que Jésus vient de déclarer. Ceux qui pleurent trouveront en Jésus une consolation et un réconfort. C'est pour cette raison qu'ils peuvent se considérer heureux. Leur tristesse se transformera en joie.
Revenons un instant sur le mot « pleurer ». Quel est son sens ici?
Il est vrai que nous pouvons pleurer pour des raisons très diverses. Nous pouvons pleurer parce que nous sommes en deuil, parce que nous avons perdu un être cher. Nous pouvons pleurer parce que nous sommes éprouvés par des difficultés douloureuses. Il serait toutefois intéressant de découvrir si Jésus a lui aussi pleuré, et si oui, de comprendre pourquoi.
Pouvez-vous nous orienter vers quelques textes?
Bien sûr, prenons d'abord Marc, chapitre 3. C'est un jour de sabbat, et Jésus est dans une synagogue pour le culte. Un homme avec une main paralysée, s'approche de lui dans l'espoir d'être guéri. Mais les pharisiens observent la scène. Selon ces derniers, il est interdit de guérir une personne le jour du sabbat. Et ils guettent la moindre occasion pour critiquer Jésus. Dans cette scène absurde, nous lisons que Jésus est à la fois en colère, mais aussi peiné par l'endurcissement de leur cœur. Le mot « peiné » correspond au verbe traduit par « pleurer » dans les béatitudes. Il est intéressant de constater que c'est l'endurcissement du cœur des pharisiens qui rend Jésus triste et non pas l'état physique de l'homme avec la main paralysée. Prenons un deuxième exemple. Jésus, accompagné de ses disciples, est en route pour Jérusalem. Alors qu'il s'approche de la ville, la Bible nous apprend que Jésus pleura sur elle. Pourquoi donc? Luc cite ensuite ces paroles de Jésus. « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. »
Je me souviens aussi que Jésus pleura devant la tombe de son ami Lazare, alors qu'il était sur le point de lui redonner la vie.
C'est exact, Yann.
Que devons-nous donc conclure de tous ces exemples?
Ce qui attristait Jésus au plus profond de son cœur, c'était le péché et le mal, notre corruption et notre pollution spirituelle et morale. Jésus pleura à cause du péché qu'il voyait autour de lui. Que ce soit les péchés très flagrants de ceux qui commettent l'adultère, le vol ou la violence, que ce soit les péchés plus sournois ou cachés des gens d'apparence respectable, mais qui s'empressent de critiquer les autres, car ils sont remplis d'orgueil. Jésus pleurait, il se lamentait sur les ravages du péché, présents dans la vie de ceux qui les commettent et ses conséquences douloureuses sur les victimes. En fait, tous, nous commettons des fautes qui font souffrir les autres. Et tous, nous pouvons être blessés par des gestes et des paroles de ceux qui nous font mal. Jésus pleurait aussi sur la mort, qui est la conséquence même du péché. L'amour n'avait aucune place dans la bonne création de Dieu, mais c'est notre désobéissance qui l'a introduite dans ce monde. Elle est devenue un destin universel, c'est-à-dire qu'elle nous attend tous. C'est un destin bien mérité, mais un destin qui fait pleurer Jésus. Ensuite, ce qui attriste profondément Jésus, c'est lorsque les gens refusent de l'écouter et qu'ils s'obstinent à s'opposer à lui. Pourquoi ? Parce que ces personnes se privent ainsi du salut, du réconfort et de l'espérance que Jésus est venu leur offrir. Revenons à l'évangile de Marc au chapitre 3. Il est vrai que l'homme avec la main paralysée suscite la compassion. Il tend sa main vers Jésus, il lui fait confiance. Et à partir du moment où il met sa foi en lui, il est guéri. Par contre, les pharisiens repartent de la scène, le cœur plus endurci que jamais. Ils ont été témoins d'un miracle merveilleux, mais ils préfèrent y fermer les yeux pour sombrer plus profondément encore dans le péché. Voilà ce qui attriste Jésus. Ces gens orgueilleux qui rejettent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ils pensent être les grands gagnants dans la vie. Mais en fait, ce sont eux les grands perdants. Jésus ne se réjouit pas de regarder les gens se perdre. Non, il pleure sur leur sort.
Merci Claude. Quelles leçons devons-nous en tirer et de quoi nous parlerez-vous lors de nos prochaines émissions?
Nous devons pleurer pour les mêmes raisons que Jésus. D'abord, il est primordial que nous examinions honnêtement et que nous pleurions sur les ravages du péché qui réside dans notre propre cœur. Ensuite, nous devons pleurer sur le péché et ses conséquences douloureuses dans notre entourage et le monde. L'existence de la mort aussi rend triste, et elle plonge dans le deuil ceux qui ont perdu des êtres chers. Je consacrerai d'ailleurs une émission à chacune de ces raisons de pleurer. Toutefois, ne restons pas dans le chagrin et la peine, et considérons ce que Jésus déclare dans la deuxième partie des versets qu'il cite. Nous apprendrons alors comment nous pouvons trouver du réconfort et une espérance certaine auprès de Jésus. En nous tournant vers lui et en accueillant la bonne nouvelle qu'il apporte, notre tristesse et notre deuil, nos larmes et nos lamentations se transformeront en joie et en paix.
Merci Claude. Comme annoncé en début d'émission, les courtes méditations qui accompagnent cette série sur les béatitudes s'inspireront des écrits du prophète Ésaïe. Notre discussion nous a conduit à parler de la consolation et du réconfort trouvé en Jésus. Alors, il nous semble pertinent de méditer le texte trouvé dans Ésaïe, chapitre 61, les versets 1 à 3, que Sandra va nous lire tout de suite.
L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu.
Le prophète Ésaïe avait beaucoup de raisons de pleurer. Ils pouvaient se lamenter sur la condition morale et spirituelle du peuple de Dieu. Ce peuple s'était éloigné de Dieu et il ne respectait pas ses commandements. Les injustices, l'immoralité et l'idolâtrie étaient couramment pratiquées dans le pays. Ésaïe, tout comme Jésus, pleurait sur la condition humaine, c'est-à-dire sur le péché si enraciné dans les cœurs. Puis le prophète Ésaïe s'est lamenté sur le fait que les ennemis de son peuple s'apprêtaient à l'envahir. Il y voyait un signe de la désapprobation de Dieu et une preuve de sa justice. Dieu livrait son peuple aux mains de ses ennemis afin de le châtier et de le corriger. Le prophète pleurait sur le sort de son peuple, car il savait quelle souffrance il allait endurer. Jérusalem allait être anéantie, et les survivants allaient partir en exil dans un pays lointain. Oui, Ésaïe avait de quoi se lamenter. Il savait que son peuple allait passer par des moments de deuil et de lamentation. Pourtant, dans un tel contexte, le prophète introduit une note d'espoir destinée à son peuple, et à nous aussi aujourd'hui. Dieu lui a permis de comprendre qu'un jour, quelqu'un viendrait pour apporter une consolation solide et réelle à tous ceux qui sont plongés dans le deuil et à tous ceux qui vivent le cœur brisé. Quelques 600 ans plus tard, un homme s'est tenu debout dans la synagogue d'un petit village en Israël nommé Nazareth. Il a pris un rouleau et il a lu les mêmes versets du prophète Ésaïe que ceux écoutés tout à l'heure. Puis cet homme a déclaré « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Cet homme a donc annoncé qu'il était précisément celui promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Cet homme, bien sûr, c'était Jésus. Les versets cités par le prophète Ésaïe nous parlent de la mission confiée à Jésus et ils comprennent plusieurs éléments. Celui qui retient notre attention est que Jésus apporte de bonnes nouvelles et que ces nouvelles consoleront ceux qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui sont dans le deuil et ceux qui ont le cœur brisé. Leur tristesse et leur lamentation se transformeront en joie et en louange. En quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ apporte-t-elle une consolation? Il faudra nous rejoindre la prochaine fois pour en savoir plus. En attendant, j'insiste sur le fait que la consolation la plus profonde et bienfaisante se trouve en Jésus-Christ. Nous avons tendance à chercher la consolation ailleurs, mais c'est souvent pour notre perte, car les consolations que le monde nous offre sont trompeuses et elles nous apportent quelquefois plus de malheur encore. Les consolations que le monde offre sont comme des petites flaques d'eau polluées, tandis que la consolation de Jésus, quant à elle, est comme une source d'eau fraîche, pure et revitalisante.
Merci Guy. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre nos réflexions sur les paroles « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ».
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.